Vous écoutez France Culture.
Il est 18h20 sur France Culture. Prochain journal de la rédaction à 22h avec Stéphanie Skog. Tout de suite, du grain à moudre avec Louise Touret et Brice Couturier. Bonsoir.
Bonsoir Florence Tomaso, bonsoir à tous. Du grain à moudre avec ce soir Ariane Herbé à la technique et Anna El Fakir à la réalisation.
Depuis la chute des totalitarismes, le fanatique a mauvaise presse. On le dépeint comme possédé par une idée fixe, incapable de compromis, parce qu'il a substitué aux intérêts toujours négociables des passions qui, elles, ne le sont jamais. À la manière des grands possédés dostoïevskiens, le fanatique ne considère pas l'autre camp comme un adversaire politique qu'il convient de dominer par la persuasion ou par la ruse, mais comme un ennemi mortel qu'il faut anéantir par tous les moyens, y compris les plus immoraux. Nous autres Européens, confortables, sceptiques et sécularisés, nous croyons définitivement immunisés par nos lumières contre ce genre de passion. Or, elles n'ont nullement disparu de notre horizon. Nous aurions bien tort de voir dans les bombes islamistes ou dans le retour des passions nationales et identitaires une simple survivance moyenâgeuse, prévient le sociologue Alberto Toscano. La frénésie d'abstraction du fanatique comporte une part de participation à l'universel et elle est aussi porteuse d'aspiration à l'émancipation. Quant à nos fameuses lumières, gardons-nous, dit-il, d'en devenir les rentiers et d'en faire une machine de guerre à exclure. Le fanatisme n'est pas une survivance des époques moins éclairées, mais bien le cœur de notre actualité contemporaine, nous avertit Toscano. Nous ne sommes pas sortis de l'histoire et rien de grand dans l'histoire ne se fait sans enthousiasme collectif. La question est importante puisqu'il en va notamment du regard que nous pouvons porter sur ce XXe siècle qui s'est achevé il n'y a pas longtemps. Devons-nous le récuser, le mettre en question avec Hannah Arendt en tant que brutalisation initiale par la boue des tranchées de 14-18 qui débouche sur les crimes de masse des totalitarismes, ou bien au contraire, en défendre et en prolonger, avec Alain Badiou, mettons, le message révolutionnaire.
Eh bien, deux invités ce soir pour en parler. Alberto Toscano, bonsoir.
Bonsoir.
Vous enseignez la sociologie au Goldsmiths College de l'Université de Londres et vous venez de publier « Le fanatisme, mode d'emploi, c'est à la fabrique ». Gérald Brunner, bonsoir.
Bonsoir.
Vous enseignez également la sociologie, c'est à l'Université de Strasbourg. Vous êtes membre de l'Institut Université de France et vous aviez publié en 2009 « La pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent fanatiques ». C'était chez De Noël. Vous organisez également un colloque sur le sujet « Le 3 juin à l'Institut des sciences humaines appliquées à Paris.
C'est exact.
Alors Alberto Toscano, commençons par votre livre « Le fanatisme, mode d'emploi ». Est-ce qu'il convient de réhabiliter ce qu'on appelle l'intellectuel radical, menacé par les critiques forcément libéraux, d'après vous, du totalitarisme, un mot d'ailleurs que vous n'aimez pas, et du fanatisme? Bref, faut-il, pour réhabiliter l'intellectuel radical, en passer par une déconstruction du fanatisme?
Donc, je pense que la déconstruction du fanatisme, c'est une tâche tout à fait importante aujourd'hui, surtout parce qu'il a joué un rôle très important dans toute une série de campagnes, idéologiques liées, par exemple, aux guerres d'Irak, Afghanistan, etc. Mais pour moi, la question, c'est plus de réhabiliter la question de l'émancipation et pas précisément celle du rôle de l'intellectuel. C'est-à-dire, je ne pense pas que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est nécessairement une figure forte d'un intellectuel comme avant-garde ou comme pensée forte, mais ce que nous manque, c'est vraiment une capacité de penser la radicalité des mouvements sociaux et la radicalité de l'émancipation sans les pathologiser immédiatement.
Alors, pathologiser, je vais rebondir sur ce mot, parce que justement, dans l'ouvrage de Gérald Brunner, où vous analysez en fait la pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques, c'est le sous-titre de votre ouvrage, vous appuyez bien sur cet aspect des choses. Le fanatisme n'est pas une pathologie où les gens qui deviennent des fanatiques ne sont pas des malades mentaux sont aussi des gens un peu normaux.
Oui, je suis obligé de le reconnaître parce que ce sont les faits qui s'imposent. Hein, le réel est un os. Et donc, je suis obligé de constater cela. En effet, la plupart du temps, lorsque l'on fait des sondages, il y en a sur la question de savoir, par exemple, prenons une forme particulière de fanatisme qui aboutit à l'action politique violente, comme dans le terrorisme. Parce que là-dessus, évidemment, on peut éventuellement faire des statistiques sur ceux qui passent à l'acte. Et de quoi exactement on s'aperçoit? Mais on s'aperçoit que ces individus ont souvent deux caractéristiques qui sont très contre-intuitives. La première, parce que pourquoi contre-intuitive? Parce que généralement, on pense que le terrorisme est enfanté par la misère et le manque d'éducation. Hein, c'est un peu ce qu'on nous propose, divers commentateurs, aussi bien dans la presse que d'ailleurs certains commentateurs académiques. Mais il n'en est rien en réalité. Au contraire, celui qui passe à l'acte, que ce soit d'ailleurs dans le terrorisme islamiste, que dans le terrorisme d'extrême gauche ou d'extrême droite, a souvent la figure d'un enfant de bonne famille. Il appartient à des classes catégories sociales plutôt supérieures et il a une formation intellectuelle relativement sérieuse, en tout cas supérieure à sa moyenne nationale, ce qui est relativement déconcertant. Et lorsqu'il y a des études psychiatriques, parce que dans un certain cas, il y en a eu qui ont été faits, notamment l'assassin d'Isaac Rabin, Yigal Amir, on a des études psychiatriques qui ont été faites. Généralement, ce sont des gens qui sont, si je puis dire, relativement psychiquement équilibrés et en tout cas vis-à-vis de laquelle la psychiatrie ne peut pas détecter de pathologie. Donc, il faut apprendre, en tout cas, je serais d'accord sur ce point, je ne suis pas sûr d'être d'accord tous les points avec Alberto Toscano, mais sur ce point, je serais d'accord avec lui. Je dirais qu'en effet, il faut procéder à une, je me méfie de ce terme, déconstruction de l'idée du fanatique, ou en tout cas telle qu'on peut se la faire dans le sens commun. Mais cela ne signifie pas, et j'insiste beaucoup là-dessus, qu'une fois qu'on a dit cela, qu'on a admis qu'il y a une logique, un univers mental dans le fanatisme, on le place sur le même pied d'égalité que ce qu'il est convenu d'appeler un citoyen ordinaire.
Alors je le disais dans notre introduction, vous critiquez beaucoup Alberto Toscano l'idée que nous soyons sortis du fanatisme, que le fanatisme ce soit une résurgence des temps moyenâgeux. En réalité pour vous, quand on fait ce genre d'analyse, on a tendance à anhistoriser le phénomène, à le renvoyer à l'autre, ce qui n'est pas nous, et à nous extraire, nous, de cette temporalité-là, la renvoyer à un passé moyenâgeux. En quoi, d'après vous, le fanatisme est de l'ordre du contemporain et non pas de l'arriération?
Donc, avant tout, je voudrais dire que le fanatisme, c'est un phénomène ou c'est une idée qui est tout à fait antérieure au développement de la soi-disant pensée occidentale, c'est-à-dire... Ce que je cherche à cerner dans le livre, c'est comment certains philosophes, Kant, Hegel, sont réussis, surtout après l'expérience de la Révolution française, à penser les fanatismes ou, dans Kant, l'enthousiasme politique.
Il est distinct, comment, hein, mais oui, vous dites qu'il les distingue mal. Mais il est distinct néanmoins.
Il est distinct, oui, bien sûr. Mais à les penser comme des éléments, disons, immanents à la rationalité politique. Et je pense que c'est cet moment-là, c'est-à-dire pas les premières lumières, mais la pensée philosophique après la Révolution française, nous permet de ne pas revenir à cet dualisme que je trouve que c'est très, très confortant, mais pas exactement réaliste, qui nous dit qu'il y a la tolérance d'une part et le fanatisme de l'autre, et qu'on peut immuniser la société contemporaine de ces phénomènes. Et je pense qu'il y a là une phrase que je cite dans les livres, dans le texte d'un jeune hegelien, Arnold Ruge, qui écrit ça dans 1843, qui dit, bien, jusqu'au moment où il n'y aura plus de lutte sociale, il n'y aura plus de conflit social, jusqu'à ce moment, il n'y aura pas d'histoire sans fanatisme. Et je pense que, en dehors d'un jugement moral ou politique sur des cas spécifiques d'une politique sans compromis, d'une politique intransigeante, que cette présence d'une radicalité quasiment
Attends,
logique.
Je voudrais juste vous reprendre, parce que vous citez cette phrase, je me souviens, elle m'a beaucoup frappé. Vous dites aussi, ce Ruge explique également que le fanatisme, c'est l'espérance révolutionnaire quand elle a été déjà une première fois déçue.
Oui.
c'est un phénomène très important. Hein, parce que donc, ce Ruge appartient à cette génération de romantiques allemands qui ont tenté de l'émancipation nationale contre Napoléon, qui ont échoué et qui donc reviennent à la tâche. Est-ce que donc, d'une certaine manière, cette revendication ne condamne pas le fanatisme dans la mesure où effectivement, ça serait de l'ordre de l'échec politique, d'un échec politique préalable qui amènerait cette radicalisation fanatique? C'est quand même ce que dit l'auteur que vous citez. Et vous ne dites pas ça.
Donc, je pense que Ruge, il défend soit la radicalité politique de la Révolution française, soit il reconnaît, que je pense qu'on peut reconnaître aussi dans la, disons, dans le mouvement, dans certains mouvements, soi-disant mouvements terroristes de gauche dans les années 70, qu'il y a bien sûr des phénomènes de radicalisation qui s'enclenche après une défaite politique. Ça, je pense que c'est un constat réaliste, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une chaîne qui va toujours d'une
c'est
défaite à une radicalisation.
Okay,
mais ça existe. D'accord. Ça, c'est aussi, je pense, l'avis du communiste italien Antonio Gramsci quand il fait sa critique du jacobinisme comme une idéologie qui se radicalise aussi en tant qu'elle n'a pas la capacité de transformer la société dans son profondeur.
Une autre question qui m'a semblé très intéressante dans votre ouvrage, c'est sur le mouvement historique tel qu'on... qui, voilà, le sens de l'histoire qui nous emmènerait comme ça, presque naturellement. Et c'est un peu aussi ce que disent aujourd'hui ceux qui sont les défenseurs des Lumières. C'est que finalement, ce serait un mouvement historique, un mouvement de progrès qui aboutirait à la fin des fanatismes, même si elle est pour longtemps, elle est pour dans longtemps, ce mouvement existe. Ça, c'est quelque chose que vous récusez profondément à la lumière du temps présent.
Oui, j'ai trouvé très, très drôle que dans un texte qui, bien sûr, a été très critiqué dans les dernières années, un texte très important qui était dans les discours internationaux, le texte sur la fin de l'histoire de Fukuyama. Il avait bien sûr cette idée qu'on était après la chute de l'Union soviétique. On est entré dans les périodes d'un libéralisme achevé, c'est-à-dire pas seulement dans la fin de l'histoire, mais vraiment dans la fin de la politique. Et je trouve ça intéressant parce que, bien sûr, c'est une vision téléologique, c'est une vision d'un progrès, mais d'un progrès qui met fin à tout progrès futur. Et dans son livre, il appelle les situations qui continuent à générer des conflits et de contrastes politiques, ethniques, religieux, etc. Il les appelle « zones de l'histoire ». Chose que j'ai trouvé assez étrange parce qu'il y a là, je pense, une ambivalence dans la pensée libérale. C'est-à-dire, est-ce qu'elle se présente comme pensée d'un progrès graduel infini ou est-ce qu'elle se présente comme une pensée qui vise la fin de l'histoire, la fin de la politique,
c'est-à-dire
une pacification.
Oui,
une pacification et une dépolitisation. Et je pense que ça, c'est un peu l'utopie. C'est une utopie gouvernementale, c'est une utopie administrative qu'on pourrait toujours neutraliser les ondes de l'histoire ou les ondes de la politique.
Je voudrais faire une citation d'Isaiah Berlin et vous la faire commenter Gérald Bronner. C'est cette fameuse citation dans Les penseurs russes. « Le renard sait beaucoup de choses, le hérisson n'en sait qu'une seule, mais elle est très importante. » Donc, en gros, le hérisson, il est la proie de ce que vous appelez, vous, Gérald Bronner, une monomanie axiologique. Dans les hiérarchies des valeurs disponibles, il en élit une et une seule. Ce que Eric Voegelin, un autre philosophe qui réfléchit sur ces questions dans les années 40-50, a appelé le realissimum, hein, la valeur suprême au nom de laquelle on peut sacrifier toutes les autres. Et du réel, il ne retient le fanatique que ce qui est susceptible de le conforter dans son système, dans sa croyance. D'où cette monomanie axiologique et le fait que c'est un hérisson. Qu'est-ce que vous pensez de l'opposition en fait par Berlin autrefois entre ce fameux renard et ce hérisson? C'était en fait pour opposer Dostoïevski et Tolstoï d'ailleurs, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance.
Oui, c'est une opposition classique et je dirais polymorphe qui prend beaucoup de... On peut opposer l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, la tolérance et en effet ce qu'on peut appeler le fanatisme. Mais oui, je trouve que c'est une opposition très heuristique. Elle me permet de dire que c'est vrai que ce qu'on appelle les fanatiques ont un des critères, c'est le rapport inconditionnel que l'individu a avec une idée. Inconditionnel, c'est-à-dire il souhaite l'appliquer quelles que soient les conditions. Et on pourrait croire que c'est la caractéristique qui l'oppose à l'homme ordinaire. Parce que l'homme ordinaire serait comme le renard, il mettrait en concurrence plusieurs valeurs, il tempérerait les unes par les autres. Et c'est vrai dans un certain nombre de cas. Mais ne perdons pas de vue qu'il y a une radicalité de l'homme ordinaire. Il y a une radicalité de l'homme ordinaire, simplement, elle demeure invisible. Pourquoi ? Parce que l'homme ordinaire adhère inconditionnellement à des valeurs qui forment le ciment de l'ordre social. Par exemple, l'homme ordinaire, aujourd'hui en tout cas, condamne inconditionnellement l'esclavage, parce qu'il adhère inconditionnellement à l'idée que les hommes en droit sont égaux. Il n'y a pas de supériorité de tel type d'homme sur tel autre, moi, pour la plupart d'entre nous. Eh bien, cette adhésion est inconditionnelle, ça veut dire qu'il n'accepterait pas de revenir sur cette question, même si on lui promettait de sortir de la crise économique grâce à cela, ou je ne sais quoi, même malgré tous les avantages qu'il pourrait y avoir. Et donc, il ne faut pas oublier que l'homme ordinaire est lui aussi un radical, mais que sa radicalité demeure invisible. Et du coup, il faut chercher un autre facteur pour définir le fanatisme. Ce n'est pas seulement l'adhésion, l'enthousiasme, etc. Parce que, à la limite, l'homme ordinaire, lui aussi, est enthousiaste de certaines valeurs. Mais cet enthousiasme, encore une fois, il échappe au regard des commentateurs. Simplement, ce qui fait le fanatique, et c'est ça qui va être beaucoup plus difficile à définir, c'est qu'il adhère radicalement à une idée radicale. Et c'est l'essence de l'idée radicale qui va être difficile à définir. Et c'est précisément ce qui est impossible quand on considère que cette radicalité de l'idée, elle n'est qu'une construction de celui qui n'est pas d'accord avec vous. Et que en d'autres termes, la radicalité serait dans l'œil de l'observateur, ce qui est une idée à laquelle je n'adhère pas.
Un relativisme dangereux. Mais cette radicalité, elle ne se construit pas en un jour. Il y a un mouvement pour devenir fanatique que vous décrivez dans votre ouvrage. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, les premiers pas vers le fanatisme sont des tout petits pas. C'est-à-dire pour faire ce chemin qui conduit au fanatisme même le plus absolu, finalement, il faut très peu de choses pour rentrer dans cette logique-là.
Mais absolument, c'est ce que j'avais observé d'ailleurs moi-même en observant une secte pendant un an. Je m'étais rendu compte, la première chose qui m'avait frappé, c'est que les gens qui étaient dans ce groupe sectaire étaient comme vous et moi, a priori. Simplement, ils adhéraient à des choses folles. Mais quand on parlait d'autres choses, ils semblaient tout à fait normaux. Et c'est ce que constatent tous les ethnologues, d'ailleurs, qui travaillent sur ce genre de questions. Alors, je me suis demandé pourquoi. Et je me suis aperçu que la doctrine finale était en effet folle, puisqu'il s'agissait pour le gourou de faire léviter des éléphants, hein, ce qui est quand même relativement saugrenu comme proposition. Mais je m'apercevais aussi que cette doctrine finale n'était délivrée que morceau par morceau, très progressivement. En d'autres termes, le gâteau est très indigeste, mais si vous le mangez petit à petit, vous pouvez le consommer. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de formes de fanatisme. C'est pas la seule, mais c'est une des voies d'entrée dans le fanatisme. C'est comme ça que des hommes ordinaires peuvent devenir des radicaux.
Alors, je reviens à votre livre, Alberto Toscano, Le fanatisme, mode d'emploi. Vous nous expliquez en gros que la critique du fanatisme, en tous les cas telle qu'elle s'est développée depuis 1989 en particulier, c'est une critique essentiellement libérale et c'est une critique antitotalitaire. Et vous, c'est un angle que vous récusez. Vous nous expliquez en particulier que le discours libéral tend à opposer les intérêts aux passions parce qu'il pense tout dans des termes économiques et il refuse l'axe idéologique. Il veut penser également les adversaires politiques, non pas comme des ennemis, mais encore comme des concurrents. Vous nous dites aussi que le libéralisme privilégie la diversité et que le fanatique a quelques raisons, lui, de préférer l'unité. En quoi, effectivement, pouvez-vous prétendre qu'il n'y a que les libéraux qui font la critique du fanatisme ? Après tout, la social-démocratie aussi est hostile aux fanatiques.
Non, bien sûr. Et j'ai, dans la conclusion du livre, je note, par exemple, les critiques, comme je disais, dans ses cahiers de Gramsci qu'il pose au mouvement fanatique. Et bien sûr, il y a toujours une critique, disons...
Pas un vrai social-démocrate, selon moi, mais bon.
Non, pas du tout social-démocrate.
Communiste.
Selon moi aussi. Mais pour dire que, bien que communiste, il y avait aussi une critique du fanatisme. Et on peut dire, bien sûr, toute la critique de l'ultra-gauche, de l'anarchisme fait par des marxistes très orthodoxes était aussi une critique du fanatisme conçu comme une politique non stratégique, c'est-à-dire une politique qui... qui imposait des idéaux et pas des stratégies. Mais pour revenir à votre question, j'ai trouvé très intéressant, ça c'était après avoir écrit les livres, les notations dans les textes, dans des vrais textes fondateurs du libéralisme et surtout de l'économie politique libérale, c'est-à-dire La richesse des nations d'Adam Smith, où il note d'une façon très précise, mais aussi très réaliste, l'émergence de ce phénomène de fanatisme, qu'il appelle fanatisme religieux, parmi, disons, les classes ouvrières ou les classes opprimées, etc. Elle dit bien, on ne peut pas se surprendre qu'il y a, dans une situation de manque de pouvoir, que la capacité de certaines idées, dans son cas, bien sûr, idées religieuses, des sectes protestantes, etc., capacité d'idées religieuses de créer une unité d'action, une unité plus ou moins politique, et donc une unification du pouvoir des gens qui n'ont pas de pouvoir. Et Smith aussi, il dit bien, on ne peut pas aussi se surprendre qu'il y a là un ascétisme politique. Bien sûr, l'idée de Smith, et ça est montré très bien dans un livre qui s'appelle Les intérêts et les passions et les intérêts, d'Albert Hirschman. Smith est un de ces penseurs, premiers penseurs libéraux, qui cherche, à concevoir l'économie comme une neutralisation des passions politiques et comme une façon de contrecarrer la possibilité des guerres religieuses, factionnalisme, etc.
Mais précisément, est-ce que dans un certain discours d'une extrême gauche aujourd'hui que vous connaissez bien, parce que vous en citez pas mal les auteurs, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de revenir sur cette neutralisation des passions politiques par l'économique ? Encore une fois, le passage de la logique ennemi-ami-ennemi par une logique de concurrence. Et est-ce qu'il n'y a pas là une singulière convergence avec des pensées qui sont exactement de l'autre bord, comme par exemple celle de Carl Schmitt ? Est-ce qu'il n'est pas assez troublant de voir un certain nombre de penseurs radicaux de gauche aujourd'hui renouer avec cette pensée politique opposant ami-ennemi et refusant la logique de la concurrence qui serait libérale, est-ce qu'il n'y a pas une convergence étrange avec un penseur comme Carl Schmitt ?
Je ne suis pas entre ce penseur de gauche qui pense que Carl Schmitt est un exemple qu'on doit suivre, bien sûr. Je pense que derrière cette interprétation que je trouve moi-même problématique, il y a un constat que pour moi c'est tout à fait important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalence entre fanatisme ou radicalité et violence. C'est-à-dire on existe dans des États qui, d'une façon et de l'autre, économiques ou directement politiques ou géopolitiques, exercent des violences qui sont dans ses effets souvent bien plus grandes de celles de certains mouvements, disons, relativement minoritaires. Et donc, je pense qu'on doit détacher la question du fanatisme ou de la radicalité ou d'une pensée, disons, partisan ou extrême, dès l'idée que les violences sociales sont tous causées par l'extrémisme ou le fanatisme, que je pense que c'est une idée tout à fait qui manque tout à fait de réalisme dans l'état contemporain.
C'est-à-dire vous dites les violences sociales ne viennent pas forcément du fanatisme. Alors, je voudrais que vous alliez jusqu'au bout de votre idée.
Pardon ?
Allez jusqu'au bout de votre idée. Donc les violences sociales dont vous parlez de la violence de l'État ?
Oui, je parle de la violence de l'État, je parle des violences sécuritaires, mais je parle aussi des violences sociales dans le sens de la limitation des possibilités de vie des grandes couches de la population. Et je parle bien sûr des violences que nous avons, tous témoigné, c'est-à-dire des violences militaires qui se sont proposées comme des violences justifiées par une guerre contre le fanatisme, qui a, au niveau simplement des nombres, c'est pas si drôle faire la comptabilité des morts, etc., mais si on regarde ce qui s'est passé dans la guerre en Irak, on a une quantité vraiment de morts et de violences sans aucune sans aucune idéologie, disons, fanatique. Bien que un des écrivains anglais qui a écrit sur le fanatisme, John Gray, est allé jusqu'au point de dire que, bien sûr, les néocons étaient des fanatiques comme les communistes avant eux, etc. Chose que je trouve pas exactement convaincante.
Peut-on guérir du fanatisme? Que nous dit le fanatisme du monde d'aujourd'hui? Ce sont les questions que nous nous posons ce soir dans Du grain à moudre sur France Culture avec deux invités, deux sociologues, Alberto Toscano, que nous venons d'entendre, qui vient de publier Le fanatisme, mode d'emploi, et Gérald Bronner, qui a publié en 2009 La pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent fanatiques. Alors justement, je vous pose la question que je soulevais à l'instant, Gérald Bronner, que nous disent les fanatiques, ceux qui deviennent des fanatiques. Et là, vous parlez beaucoup des sectes aussi dans votre ouvrage, mais je parle...
Entre autres, des collectionneurs, de radicaux.
Ça, parce qu'il y a beaucoup de comparaisons qui sont d'ailleurs étonnantes. Hein. Ouais. Vous allez jusqu'à comparer l'homme qui décide de collectionner des bouchons de champagne avec celui qui va s'engager dans un mouvement terroriste, dans le sens où... Voilà,
c'est l'expression d'une forme de radicalité mentale. Les conséquences morales ne sont pas du tout les mêmes, on est bien d'accord.
On est bien d'accord.
On ne peut pas comparer ces choses-là.
Je vous laisse le dire. Alors, plutôt sur le versant religieux et politique, que nous disent ces fanatiques d'une société démocratique, d'une société où les expressions, même contre la violence sociale, même contre la violence institutionnelle, sont possibles dans les voies qu'on connaît, celles de la manifestation, de l'engagement, etc.
C'est un peu ça qui ne me rassure pas du tout, si vous voulez, dans le discours d'Alberto Toscano, c'est qu'il ressemble diablement au discours que j'ai pu étudier de ce qu'il est convenu d'appeler des fanatiques. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'individus revendiquent le droit à frapper, y compris physiquement, par des bombes par exemple, enfin par des actions violentes, y compris des gens qui seraient considérés comme des innocents, a priori, du point de vue des fautes qu'ils ont commises, avec ce suprême argument que, un, personne n'est innocent parce que tout le monde est complice d'un système de domination, et que, deux, il faut bien se défendre avec les armes que l'on a et que, justement, nos sociétés, occidentales en particulier, feraient des violences inacceptables, et c'est vrai dans un certain nombre de cas, à des populations qui n'auraient rien demandé. C'est amusant parce que... Enfin, c'est amusant, c'est tristement amusant. Mais il se trouve que j'ai mis côte à côte le discours d'un célèbre anarchiste du début du XXe siècle et celui de Ben Laden, après les attentats du 11 septembre. Et la rhétorique était exactement la même, en fait. Hein. C'est la rhétorique du « il n'y a pas d'innocent ».« No one is innocent ». Donc voilà ce que disent les fanatiques, mais ils le font généralement dans une rhétorique tout à fait sophistiquée pour certains d'entre eux et qui peut être d'une certaine façon convaincante. C'est-à-dire il n'y a pas que des aberrations dans ce qui est dit. C'est-à-dire c'est pourquoi d'ailleurs c'est un des succès, du fanatisme, et c'est pourquoi d'ailleurs le fanatisme touche aussi, on l'a pas dit, mais touche beaucoup des individus qui ont un sentiment de déclassement, qu'ils soient subjectifs ou objectifs d'ailleurs, ce sont des rhétoriques qui leur permettent de redistribuer les cartes en quelque sorte. C'est ça qui leur importe, redistribuer les cartes et rétablir finalement une zone du bien et du mal, car ils sont loin de ne pas être manichéens.
Alberto Toscano, vous avez été mis en cause là, défendez-vous.
Bien, si les propos c'est des analogies entre ma pensée et la pensée de Nechaïev ou Ben Laden, je ne pense pas que j'ai beaucoup de besoin de mes
avocats. Vous livrez quand même une certaine réhabilitation du fanatisme quand vous faites la déconstruction du discours qui le dénonce. Immanquablement, on peut penser que vous défendez, vous réhabilitez en tous les cas.
Non, je ne défends pas. Avant tout, je veux investiguer un peu les conditions historiques des emplois de ces termes que je pense portent dans un certain sens à relativiser l'absoluité de ces termes, c'est-à-dire les caractères absolus du reproche de fanatisme. Bien sûr, Gérald Bronner avait donné l'exemple que l'homme ordinaire, j'espère bien, mais je ne suis pas exactement sûr, a une réponse immédiate contre l'esclavage. Les abolitionnistes américains étaient bien sûr un des groupes qui a été reproché de fanatisme de façon quasiment universelle, au moins aux États-Unis dans les années 1830-1840. Mais ce que je voulais dire, c'est que, je ne veux pas proposer le fanatisme comme solution ou comme modèle aux problèmes politiques contemporains. Mais je pense que je trouve, disons, pour faire un usage d'un terme un peu fanatique, je trouve assez intolérable l'idée qu'on vivrait maintenant dans des sociétés qui peuvent s'arroger la
pacifier et sortir
oui,
des ténèbres.
Oui, peuvent se considérer des sociétés entièrement tolérantes sans des responsabilités que je ne considère pas des responsabilités individuelles, bien sûr, mais je considère des responsabilités sociales à qui beaucoup de mouvements qui ne sont pas du tout extrémistes ou violemment radicaux cherchent à répondre. Dans ce sens, j'ai conclu les livres aussi avec une réflexion sur ce que je pense sont les limites du fanatisme ou les limites d'une radicalité purement abstraite ou idéale, c'est-à-dire d'une pensée qui est la pensée fanatique, qui est dans un certain sens une pensée non stratégique ou une pensée qui n'est pas exactement une pensée sociale, parce que bien sûr... les fanatismes fonctionnent avec, comme disait Gérard Brunner, fonctionnent avec des principes et des conséquences, disons, logiques. Je pense dans le cas de l'abolitionnisme, ça était tout à fait une position que je pense on pourrait défendre très bien, c'est-à-dire l'abolitionnisme immédiatiste, c'était un abolitionnisme qui n'était pas à l'intérieur d'une idée de la transformation graduelle. On disait, bon, l'esclavage, c'est quelque chose d'absolument... mauvais, et on répond à ça directement. La chose très importante, je pense, c'est de différencier, et ici j'aurai mes propres critiques aux travaux de Gérard Brunner, c'est de différencier la question du fanatisme comme discours politique sur les actions collectives, et l'idée qu'on peut toujours penser à ça avec, disons, une méthodologie plus ou moins individualiste, comme une question de la vie ou de la logique individuelle. C'est-à-dire à l'intérieur, par exemple, des mouvements abolitionnistes ou aussi des mouvements, disons, terroristes, il y a, je pense, des logiques aussi assez différentes. Et je ne pense pas... C'était les apologues de l'esclavage aux États-Unis qui pensaient que tous les abolitionnistes étaient des gens qui avaient une obsession, disons, logique avec leurs problèmes. Mais ils étaient entièrement capables... de tenir ferme sur ces principes, les principes de l'anti-esclavage, mais aussi d'avoir une capacité de négocier, de médier avec des autres groupes politiques qui étaient tout à fait importantes.
Donc les abolitionnistes passaient pour des fanatiques aux yeux de ceux qui ne l'étaient pas.
Mais est-ce que vous ne faites pas un peu de relativisme là à bon compte, même si votre ouvrage n'est pas... c'est pas sur votre ouvrage là que j'interviens, mais sur ce que vous venez de nous expliquer. C'est-à-dire qu'en nous servant l'exemple des abolitionnistes qu'on a effectivement traités de fanatiques ou d'autres gens qui militent pour ce qu'on appelle objectivement aujourd'hui un progrès de la civilisation, ou même des révolutionnaires en 89, bon, on ne peut pas tout mettre sur le même plan. C'est-à-dire qu'il y a l'investissement dans une idée, mais il y a aussi une échelle morale dans cette idée. Et puis, peut-être que même certaines sont plus rationnelles que d'autres. Et puis, les abolitionnistes n'étaient pas terroristes.
Non, bien sûr, mais je ne pense pas que pour condamner les actions tout à fait dégoûtantes d'un Bin Laden ou des autres mouvements politiques, j'ai besoin d'entrer dans le discours disons, des psychologisations de leur activité. Je pense qu'on peut faire un jugement politique tout à fait transparent.
Mais c'est pas de la psychologisation.
Gérald, Gérald Brunner.
Il fait un peu de psychologisation, lui, dans son ouvrage.
Mais tout à fait, parce que je pense que c'est avant tout une posture mentale. Une posture mentale incarnée dans un espace social, ça va de soi. Hein. C'est pas de l'atomisme que ce que je propose comme analyse. Mais j'ai un peu peur, en fait, Alberto Toscano, que vous lâchiez en quelque sorte la proie pour l'ombre. Parce qu'il est évident que le fanatisme, que le terme fanatique étant péjorativement connoté, il peut être instrumentalisé de part et d'autre. Ça, c'est l'histoire politique politique le montrent, mais ça ne prouve pas qu'il n'y a pas une essence de la posture mentale fanatique.
Est-ce que je peux juste vous interrompre pour dire qu'après tout, il y a eu des discours politiques qui ont valorisé le fanatisme? Je prends l'ouvrage de Victor Klemperer, le grand résistant anti-nazi, LTI, Lingua Terti Reichi, la langue du Troisième Reich. Il y a un chapitre entier qui est consacré au mot fanatique. Dans ce chapitre, Victor Klemperer note qu'en allemand, fanatique avait toujours signifié quelque chose de menaçant et de répulsif, et que bizarrement, le Troisième Reich hitlérien emploie constamment le mot fanatique, l'adjectif fanatique, avec une valeur positive qui serait une valeur de témérité, de dévouement opiniâtre, etc. Il note également, et ça me paraît très intéressant, que l'adjectif fanatique, notamment dans le sens avoir des convictions fanatiques, un enthousiasme fanatique, etc., revient de plus en plus dans la propagande nazie au fur et à mesure que le Troisième Reich s'effondre. Que donc il y a une valorisation du fanatisme tout à fait étonnante dans un contexte d'une nation civilisée qui avait, depuis les Lumières, tendance, comme nous tous, à considérer que le fanatisme était de l'ordre du délire religieux, eh bien, ce totalitarisme agonisant tend à réhabiliter le fanatisme et en faire une valeur positive. Gérald Bronner.
Oui, tout à fait. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, si je puis dire, dans votre analyse, Alberto Toscano, c'est, vous mentionnez à juste titre, que le mot fanatisme a une histoire. Il a une histoire conceptuelle dans l'histoire des idées. Mais ce n'est pas parce qu'il a une histoire et qu'on peut la dater d'une certaine façon que l'essence à laquelle il renvoie naît avec cette histoire. Je veux dire, la gravité ne naît pas avec Newton. Hein, il y a un moment donné dans l'histoire des idées, un concept émerge. Il peut être en effet instrumentalisé. Mais si vous focalisez, si vous obnubilez, si je puis dire, votre interprétation là-dessus, vous perdez, à mon avis, l'essence de ce qui est la posture mentale du fanatisme, qui est une posture tout à fait spécifique. Et du coup, l'on perd la possibilité, à mon avis, de répondre à cette question que posait le titre de l'émission, je crois. Peut-on guérir du fanatisme, qui, à mon avis, n'est pas une bonne question, parce que ce n'est pas une maladie, mais peut-on sortir du fanatisme, qui est une question, vous me l'accorderez, qui a une utilité sociale, surtout dans notre contemporanéité, qui est grande.
Alberto Toscano.
Moi-même, je pense que fanatisme n'est pas un terme comme gravité, c'est-à-dire je ne pense pas qu'il soit un concept dont on peut éliminer toute cette sédimentation historique et idéologique. Par exemple, j'étais très frappé par cette étrange capacité du concept de fanatisme d'entrer dans des analogies sauvages, qui sont des analogies dont on fait usage dans la presse, par exemple. Dans les périodes de l'après-guerre, il y avait un texte très répandu, ça s'appelle « Sociologie du communisme » par Jules Monnero. Il commençait avec cette phrase, il avait cette phrase là-dedans, qui était « Le communisme, c'est l'islam du XXe siècle. » Et puis Pierre-André Taguieff et des autres, Christopher Calder en Angleterre, ont dit que l'islam, c'est le communisme du XXIe siècle. Et je pense que, bien sûr, on peut étudier, comme vous faites, des phénomènes, des postures mentales, des postures cognitives. Mais là, il y a, je pense qu'en cherchant de créer, disons, une science du fanatisme, on ne peut pas garder la capacité de jugement politique que l'idéologie du fanatisme avait. Parce que bien sûr, si un fanatique peut être un collectionneur de bouteilles ou un meurtrier, ça ne nous donne pas, c'est-à-dire guérir du collectionnisme, ce n'est pas quelque chose exactement urgent. Et donc, je ne sais pas bien si les moyens politiques sont les mêmes, parce que je pense que vraiment, en politique, on doit parler des phénomènes collectifs.
C'est pour ça qu'il est urgent de distinguer clairement c'est le noyau dur du fanatisme quand il est sociopathique.
Alors, j'annonce vos deux livres. Celui de Gérald Bronner est sorti déjà il y a un certain temps. Il s'appelle « La pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques ?» C'était paru chez De Noël. Et donc, vient de sortir à la Fabrique Édition le livre d'Alberto Toscano, « Le fanatisme, mode d'emploi ». J'ajoute que nos deux auteurs aujourd'hui participent à deux colloques qui vont avoir lieu très prochainement prochainement. Le plus proche, c'est celui du 19 mai à la petite salle niveau -1 du centre Georges Pompidou, dans lequel vous allez dialoguer vous-même, Alberto Toscano, avec Alain Badiou sur le thème fanatisme et politique aujourd'hui. Et puis il y a un grand colloque le 3 juin à l'Institut des sciences humaines appliquées, qui donc se trouve 28 rue Serpente, on mettra l'adresse, à Paris, auquel vous participez vous-même, Gérald Bronner. Il y aura pas mal de gens américains, français et d'ailleurs.
Voilà, demain on parlera des nouvelles familles. En tout cas, est-ce que ce terme a encore un sens aujourd'hui, avec Christine Boutin et le professeur René Friedman, et puis aussi Jacques Bronstein, qui est journaliste et auteur des Week-ends du père célibataire. Et dans les matins, ce sera Emmanuel Pierrat pour l'affaire DSK, évidemment.